Vous écoutez France Culture. Bonjour, c'est l'heure du documentaire et après les forêts de Puisé racontées par leurs gardes forestiers hier, nous voici partis plus au nord de la France avec Sur les Docks. Notre destination est la Bretagne, où des éleveurs ont accepté de témoigner sur leur métier. Le sujet est la volaille, devenue en quelque sorte une spécialité, aux côtés du faro pruneau et du quignaman. Pour Romain Kella, auteur de ce documentaire, c'est un milieu professionnel hyper technique et épuisant, où la logique industrielle, sanitaire et financière a imposé son culte de la performance et où les anciennes formes de solidarité paysanne ont disparu. Comme on l'entendra, en dépit des avanies, les paysans bretons s'organisent et il n'est pas rare que des agriculteurs en retraite viennent en aide aux jeunes sur les plans administratifs, juridiques ou psychologiques. Il n'en reste pas moins que le paysan d'hier ne ressemble pas à celui d'aujourd'hui et que de nouvelles formes de travail doivent être totalement inventées.
C'est vrai que le paysan aujourd'hui, si on regarde bien, qu'est-ce qu'il a à faire, c'est de travailler et puis de rembourser ses emprunts. Et puis en intégration, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Quand vous appelez, comme en volaille, on vous disait tel jour vos poussins ils arrivent, tel jour ils partiront. Et voilà, si c'est à telle heure, si c'est la nuit, si c'est le jour, l'abattoir il se pose pas ces questions-là. Il vous dit et puis vous avez qu'à suivre. Hein. À vous de trouver l'équipe de ramasse, à vous de... C'est ça qui est... qui est très compliqué, qui est... Enfin, où le paysan n'est plus maître chez lui. Quoi. C'est quelque part, on n'est qu'un pion. Hein. Moi, quand j'appelais chez nous, je n'avais pas besoin de donner mon nom, je donnais mon numéro d'éleveur. Bon, c'est quand même très étonnant. Quoi. Enfin, si j'ai voulu m'installer, moi, c'est parce que j'étais moi déjà d'abord. Donc, enfin voilà, quoi. C'était pas par rapport à un numéro que je m'installais. C'est... Enfin, vous êtes, ouais, c'est vrai, c'est... vous êtes tout seul dans votre exploitation, vous devez travailler et puis vous devez vous occuper des paramètres extérieurs, mais vous n'avez pas beaucoup de choses à dire sur le fonctionnement, quoi.
Requiem pour 25 000 poulets. En augmentation rapide, avec 106 millions de tonnes produites en 2013, la volaille est en passe de devenir la première viande consommée dans le monde. La France, à elle seule, représente 1,8 million de tonnes. Spécialisés dans la volaille export, les abattoirs de Doubs et Tilly-Sabco, en Bretagne, font beaucoup parler d'eux. Épopée du redressement judiciaire de Doubs, casse sociale, levée de boucliers contre la suppression des restitutions à l'export de l'Europe, écotaxe, bonnet rouge. Des arrangements financiers ont été trouvés, au moins temporairement, avec le ministère de l'Agriculture et la Commission européenne. Malgré cela, alors que la Bretagne s'est peu à peu spécialisée dans la production de volailles depuis les années 60, les aléas du marché provoquent régulièrement des vagues de sélection parmi les éleveurs. Nous sommes allés à la rencontre de quelques éleveurs de volailles dans le Finistère, notamment dans la commune de Saint-Urien, où un fait divers avait de quoi interpeller. 25 000 poulets morts suite à une panne de courant. Comment une telle tragédie peut-elle se produire ? Visite des bâtiments de l'éleveur René Du, travaillant pour MVO, Michel Volaille Ouest. Ce jour-là, justement, le technicien de MVO vient faire un contrôle.
Bonjour.
Bonjour. C'est vous, Romain ?
Voilà.
D'accord. Donc, technicien qui suit l'élevage, au niveau conseil sanitaire, essentiellement.
Alors, vous apprêtiez peut-être à rentrer. Vous avez mis une combinaison.
J'ai mis la combinaison. Je vais mettre ma charlotte et je vais rentrer dans l'élevage. Donc, je vais faire un tour d'élevage et ensuite, je vais préconiser certaines choses à Monsieur Du et Monsieur Madame Du. Donc, voilà. Si tout va bien, RAS. Voilà. Les virus qui se promènent dans la nature, ils sont véhiculés bien sûr par le personnel qui rentre dans l'élevage, mais aussi par les poussières, par la ventilation. De là à dire que c'est des problèmes essentiels, non. D'une part, les virus, on les maîtrise assez souvent par des vaccins. Et par contre, les bactéries essentiellement et les coccidies, donc qui sont des parasites, sont véhiculés plus par les mains, par les pieds. Et donc, d'où l'intérêt de mettre des pédisacs et une cotte à l'entrée de l'élevage. L'objectif, c'est zéro antibiotique, si vous voulez, pour l'avenir. Donc, plus il y aura de précautions de prise, on aura d'autant moins de soucis.
Donc, c'est des poussins qui ont 4 jours depuis vendredi qu'ils ont été livrés. Quoi, hein. Donc, ils sont encore tout petits, ils font 100 et quelques grammes. Hein, ils sont encore très jeunes, quoi. Là, ils sont au chaud. À 29, pas loin de 30. Hein. Ouais, voilà. Et on démarre les premiers jours, il y a 32, 33. Hein. Là, il y en a 20 000 à peu près. 20 000 sur 860 mètres carrés. Donc ça fait à peu près 24 au mètre carré. On n'est pas. Ils sont pas très serrés, quoi. Enfin, tout dépend des productions qu'on fait, quoi. Si c'est du poulet léger export ou alors du poulet alourdi standard comme ceci, quoi.
L'éleveur, il ne peut pas non plus charger autant qu'il le veut. C'est qu'il y a des normes administratives qui lui demandent de ne pas en mettre plus. Donc, ce que vous avez dans ce bâtiment-là, c'est respecté, c'est la loi, c'est dans les règles, je dirais. Pour réussir un bon lot, si vous voulez, il y a 4 paramètres qui sont très importants. Il y a le bâtiment, l'éleveur et la combinaison entre le bâtiment et l'éleveur. Il faut bien le comprendre dans le fonctionnement. Ensuite, évidemment, de fournir un bon poussin de qualité, c'est très important. Et aussi, bien évidemment, l'alimentation. L'alimentation, c'est la croissance, c'est le GMQ.
GMQ, ça veut dire ?
GMQ, c'est gain moyen quotidien. C'est ce que prend un poussin dans une journée. Donc, ça va être très, très lié avec l'indice de consommation en finale. C'est-à-dire, l'indice de consommation, c'est la quantité d'aliments qu'il faut pour produire un kilo de viande. Donc, moins on aura d'aliments pour un kilo de viande, moins il y aura de transport d'aliments, donc moins de dépenses de gasoil, donc, vous voyez. Et puis, moins de déjections, évidemment, aussi.
Du coup, un meilleur rendement.
Et un meilleur rendement économique, voilà. Et pour l'éleveur comme pour nous.
Alors moi, je suis Didier Goubil, je suis aviculteur donc à Poulaouen depuis 1989. J'ai pris la suite de mes parents qui faisaient de la volaille depuis les années 1954-55. C'est vrai que je dirais la première qualité du bon éleveur, en fait, c'est faut être motivé, faut être passionné. En fait, je crois qu'on ne devient pas éleveur comme ça parce qu'on se dit tiens, je vais gagner plein de sous ou bien je vais me la couler douce. Non, aujourd'hui, pour être éleveur, il faut être passionné, faut être à toute épreuve, galvanisé à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on est sur un marché qui est très... On est toujours plus cher que les autres parce que nos systèmes, notre système européen ou français, etc., en termes de social, d'environnemental, etc., nous met beaucoup de charges. Alors ça, moi, ça serait pas un problème si tout ça était reconnu dans notre prix de vente, quoi. Donc la plus grosse qualité, c'est ça, c'est d'être courageux et puis de ne pas se laisser démoraliser parce que on gagne pas beaucoup d'argent et puis parce que régulièrement on est victime de tout un tas de critiques. Après, je dirais qu'il faut quand même un minimum de connaissances, il faut savoir compter, je dirais, parce que si vous savez pas compter, c'est compliqué parce que vous vous faites arnaquer régulièrement. Après, il faut savoir compter. Après, être ingénieur n'est pas forcément nécessaire, mais surtout il faut être courageux, quoi. Après, les engagements financiers sont très élevés. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, prendre un élevage, l'élevage moyen, 2500 m², par exemple, pour la Bretagne, c'est 350 à 400 000 euros d'investissement à neuf, quoi. Alors, c'est quasiment impossible, quoi. Aujourd'hui, rentabiliser ça, c'est impossible. Par contre, vous pouvez trouver d'occasion des élevages comparables avec soit intégralement volaille, soit une partie volaille, une partie culture, par exemple, ou avec 250 ou 300 000 euros d'investissement, vous pouvez démarrer, quoi.
On a démarré en avril 2013. Le dossier était fait déjà depuis un moment, mais bon, ça a traîné pas mal. Donc, le temps d'avoir les autorisations d'exploiter et puis tout ce qu'il faut avec les banques et tout ça, quoi. Donc, Mais c'est des grosses sommes, hein, donc ça fait des grosses annuités, quoi, disons.
Et vous êtes endetté du coup sur combien d'années là pour acheter ici?
Ah ben, l'élevage du foncier comme ça, c'est 12 ans.
Qu'est-ce qui fait qu'une banque, elle fait confiance à un éleveur?
Ben, déjà, nous, on a déjà du passé, on en a vécu. Avant, on avait déjà un élevage sur notre commune, donc on a déjà des résultats qui étaient bons sur ce site-là, donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu de soucis pour emprunter de l'argent. Voilà.
Il y a la situation d'abord d'une Bretagne qui avait énormément d'agriculteurs en place, des très petites exploitations, qui étaient plutôt des exploitations vivrières. Hein. On produisait du lait, avec le lait on faisait du beurre, le beurre on le vendait au bourg, avec ça on achetait un peu des blouses, des chaussures, des choses comme ça. Mais autrement, l'exploitation agricole servait en fait à se nourrir, quoi. On vivait de son exploitation, en général il y avait une, deux, voire trois générations en place, hein, les grands-parents qui aidaient, les parents et les enfants éventuellement qui arrivaient des fois à 14-15 ans et puis qui se mettaient déjà au travail, quoi. Et en fait, cette situation d'agriculture vivrière, en fait, ou plutôt autonome, on va dire, a changé avec l'apparition notamment du tracteur. C'est-à-dire que les tracteurs sont arrivés. Il a fallu en fait les payer d'abord. Ensuite, il a fallu acheter du carburant, payer de l'entretien, etc. Donc, il fallait en fait des recettes supplémentaires. Donc, il y a des agriculteurs qui ont commencé à s'agrandir, qui ont acheté donc la ferme du voisin ou loué la ferme du voisin. Mais il y avait beaucoup de monde, il n'y avait pas assez de terre pour tout le monde. Voilà. Paris aussi grossissait, puisqu'il y avait l'exode rural qui se faisait. Et il fallait nourrir en fait tous ces gens-là qui venaient travailler à Paris et dans les grandes villes et un peu partout. Et puis, assez vite, on s'est rendu compte que ces petites unités-là n'étaient pas suffisantes. Moi, mon père m'a souvent raconté qu'il a eu l'opportunité. À l'époque, donc, c'était un volailler local, Guy Colobert, qui était en train justement d'agrandir son abattoir parce qu'il avait un mandataire sur la Villette qui avait besoin de poulets. Et il a commencé à construire donc des bâtiments qu'on appelait à l'époque donc des grands bâtiments, quoi, 400, 500 mètres carrés, et dans lesquels donc il élevait des volailles sur une durée de 60 de jours à peu près, mais toute l'année, quoi. Alors qu'à une époque, le travail était plutôt saisonnier. Ici, c'est des bâtiments qui étaient complètement dévoués à la production de volailles, donc les poulaillers, quoi. Voilà, on a commencé à s'équiper. Il y a eu une espèce de révolution agricole, mais qui était liée à un besoin alimentaire à l'époque de la France, quoi. Et ça a pris encore une échelle supérieure à partir des années, fin des années 60, où alors il y a eu carrément, il y avait vraiment une volonté en fait du gouvernement de l'époque de que la France soit autosuffisante au niveau alimentaire.
Donc là, on est à Troisol, commune de Saint-Urien.
Troisol, tout à fait, ouais. On va rentrer, il se fait meilleur à l'intérieur. Hop.
Allez.
Olivier Guéguin, donc j'ai 37 ans, bientôt 38. Donc oui, fils de paysan. Arrière-petit-fils même, puisque mon grand-père était exploitant à Carré. Donc, dans les années 2000, donc je m'étais associé en lait. On était quatre associés sur une exploitation. Bon, ça n'a pas marché au niveau relationnel. Donc après, j'ai décidé de me réinstaller quand même. Et donc, j'ai pris des poulaillers parce que c'était moins contraignant que les laitières, quoi. C'était, y avait pas la traite deux fois par jour. Et puis, tout seul, je me voyais pas, en ayant ma femme à l'extérieur, travailler 7 jours sur 7, avoir les contraintes de la traite et tout ça, quoi. Donc voilà, le parcours s'est fait comme ça. Et donc, j'ai repris des poulaillers en 2009, exactement début 2009. Avant de reprendre, il fallait déjà que j'ai un contrat avec un abattoir, si on veut. Donc, en 2008, on avait déjà clôturé un contrat avec Doux, avec la société Doux. Ils avaient des poules repro, donc à partir de là, ils faisaient leurs œufs. Ensuite, ils faisaient leurs poussins.
Ils nous envoyaient les poussins, ils nous vendaient l'aliment. Et en fait, nous, on était... Ils abattaient et ils exportaient. Donc, vraiment la chaîne de A à Z. On achetait nos poussins, on regardait après ce qu'ils consommaient en aliments. Et on regardait ce qu'on sortait en tonnes de viande. Et on faisait un barème là-dessus qui faisait qu'on était payé tant du tonnage. Donc, plus ils avaient consommé... et moins on sortait de viande, évidemment, ben, on n'était pas cher payé, quoi. Donc, puis c'est toujours pareil. C'est, quand on a des vieux bâtiments, c'est comme une deux chevaux, on n'ira jamais aussi vite qu'une Ferrari, quoi. Donc, on avait beau... j'étais assez à cheval sur l'élevage, mais on ne pouvait pas... on pouvait sortir que des lots moyens, on va dire.
Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce partenaire-là pour contractualiser
Bah, très bonne question. parce que déjà, on n'avait pas trop le choix. Parce que des partenaires, on n'en trouve plus beaucoup ces temps-ci. Ça devient rare parce que le marché est très tendu. Et puis, c'est une production qui nous intéressait. Faire du poulet frais comme ça... c'est toujours mieux que de faire de l'export qui font des poulets à 30, 32 jours, quoi. Donc, c'est toujours beaucoup plus intéressant à produire que le poulet export, quoi.
Pourquoi ?
Ben, parce que le poulet export, t'as pas le temps. Ça reste qu'un mois, donc c'est infernal, quoi. On a chargé, il faut revider au bout d'un mois. Il faut relaver, c'est toute l'année comme ça. Les gars, ils font 7, 8 lots, voire 9 lots dans l'année, quoi. Et nous, on en fait 6 maximum, quoi. À peine, quoi. Donc, ça laisse, on a plus de répit. Puis la production est plus intéressante. C'est des poulets, quand ça va, bon, c'est... Ça laisse des marges plus intéressantes que l'export, quoi. Voilà, quoi.
Est-ce que c'est encore un métier aujourd'hui dont on peut vivre bien ? On a des bons revenus en tant qu'éleveur ?
Bah, le revenu, c'est quand même moyen, hein, parce que nous, on est quand même endettés, donc bon, faut pas rêver, on fera pas fortune. Hein, mais on s'en tire bien, il faut avoir des bons résultats, c'est tout. Parce qu'il y a un tiers, c'est divisé en trois tiers, les meilleurs, les moyens et puis les mauvais, quoi. Donc il faut essayer d'être dans le premier tiers. En général, ceux-là, ils s'en tirent bien.
Qui décide de ce classement ?
C'est le groupement qui nous classe comme ça, selon les résultats qu'on sort. Quoi.
Qu'est-ce qui se passe, du coup, si on devient moins bon ou mauvais ?
Ben, on peut être mauvais. C'est sûr que ça peut arriver à tout le monde. Même nous, des fois, bon, on sort des lots moyens. Ça peut arriver s'il y a des problèmes sanitaires. T'auras beau faire, ce sera pas trop bon, quoi. Mais bon, en général, en moyenne, il faut être toujours dans les bons, il faut être compétent, quoi. Autrement, si on arrive dans les mauvais, ça dure pas. Déjà, la banque va nous rappeler à l'ordre et puis on en voit pas mal ces temps-ci qui ferment, quoi. Ils arrêtent. Voilà. Déjà, le groupement ne les charge plus. Ils ne mettent plus de poussins en place. Donc, par la force des choses, ces gens-là, ils sont obligés d'arrêter, quoi. C'est eux qui gèrent tout. Nous, on ne commande pas grand-chose. Enfin, on a le droit de dire ce qu'on pense, hein, mais d'ici à commander, non. C'est parce que c'est l'intégration complète. Donc, on n'est que prestataire, quoi, de service, si on veut, quoi. Donc, du coup, bah, y a quand même un contrat qui est mis en place avec le groupement, mais bon, après, ils peuvent le changer quand ils veulent, pratiquement, parce qu'ils font des avenances au contrat. Donc, mais en général, ceux qui sont sérieux, il n'y a pas de souci. Voilà.
Roland Duflet, donc je suis agriculteur, donc ici à Saint-Urien. Le travail, il n'est pas rémunéré, il n'est pas salarié, il est esclavagier du travail. C'est lui donc qui fait tout ce qui est. C'est lui qui vide le fumier, enfin c'est lui qui fait toute la merde. Et les autres, donc les intégrateurs, les opérateurs, bon, c'est eux qui ramassent le bénéfice, sinon sans faire grand-chose. Donc, c'est un piège à con. Donc, au début, il y a peut-être 40 ans, le prix de vente, le prix d'achat, la marge était beaucoup plus élevée. Vous comprenez ? Donc, c'était à la limite, on en a connu des gens qui faisaient fortune en faisant ça. J'ai entendu parler d'un type qui faisait dans le Morbihan, que tous les jours, quand il se levait le matin, il se faisait une 4L, vous comprenez ? Une voiture. À l'époque. Mais c'est donc ça a un échec, hein, parce qu'il s'était vendu pratiquement à des prix assez élevés. Alors, au fil des années, ils ont rabaissé le prix. Ils rabaissent toujours le prix. Et puis, ils font en sorte que le type reste coincé, parce qu'il ne faut pas qu'il ait de bénéfice. On appelle ça la technique du niveau constant en agriculture. Le niveau constant, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que vous ne gagnez pas d'argent. Et comme ça, vous pouvez pas vous défendre. Le matériel, les bâtiments sont toujours là. Donc, ils vous amènent le poulet, la bouffe. Et puis, on essaie de juste tenir que vous teniez, mais surtout pas que vous preniez de ses propres ailes, vous comprenez ? C'est ça un peu la technique. Et donc, ça élimine, ça a le pouvoir d'éliminer, parce qu'ils veulent éliminer les agriculteurs. Donc, ce phénomène élimine les autres.
L'échec chez un agriculteur, mais comme dans une autre profession, souvent, voire peut-être dans certaines professions où on rebondit plus facilement, où on est plus un petit peu noyé dans la masse, ça se voit peut-être moins, mais chez un agriculteur, chez un agriculteur, chez un commerçant, enfin chez des gens qui ont un peu pignon sur rue comme ça, c'est très très difficile à admettre soi-même. Lorsqu'on traverse comme ça des difficultés, il faut être justement capable de trier, quoi, d'être capable de garder la tête froide, de se dire, ben voilà, j'ai échoué parce que mon montage financier, lorsque je me suis installé, lorsque j'ai investi, n'a pas été bon. J'ai pris des dettes sur des durées trop courtes par rapport à la rentabilité de mon élevage. Donc, être capable de refaire le point avec son comptable, avec ses créanciers, etc. Bon, ça existe, hein, aujourd'hui, la chambre d'agriculture, les personnes qui accompagnent les gens, les centres comptables aussi. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont des fois en situation délicate arrivent à repartir. Et puis après, il y a les situations en fait pour lesquelles les causes sont beaucoup plus multifactorielles, quoi. Il y a sans doute un mauvais départ avec le montage financier, des mauvais choix aussi, que ce soit dans les investissements ou dans les productions, dans tout un tas de choses. Et puis après, il y a le fait que entre-temps, il y a eu des soucis familiaux, des soucis de santé, enfin, tout un tas de choses viennent se greffer et font que l'activité agricole, qui doit être normalement une activité très demandeuse de temps et d'énergie, est un peu plus délaissée, quoi. Et du coup, les résultats ne sont pas au rendez-vous, les dettes s'accumulent, etc. Bon, après, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est la cause ou la conséquence. Il suffit d'avoir un petit différent au niveau conjugal. Madame s'en va ou vice-versa. Bon, quelques soucis avec les enfants, des trucs. Et puis, effectivement, on a des gens qui sombrent assez rapidement après dans la déprime, quoi. Alors, en aviculture, moi, j'ai tendance à dire qu'on a connu énormément d'arrêts d'activité dans les années 2000. Là, il y a eu une grosse vague d'arrêts. Et je pense que on avait sans doute arrêté à cette époque-là les gens qui avaient déjà le plus de difficultés, qui étaient sans doute le moins à même, en fait, de gérer la production ou qui ne voulaient plus, quoi. Du coup, c'est vrai qu'on avait un petit peu, entre guillemets, assaini, c'est-à-dire qu'on avait fait disparaître une partie des producteurs qui auraient le plus mal passé la crise, quoi. Voilà.
En fait, l'élevage était au niveau compteur électrique. On avait un contrat, un abonnement qui était EJP, c'est-à-dire qu'on, pendant 22 jours du 1er novembre au 31 mars, on produit son électricité tout seul. Ça veut dire que l'électricité est coupée sur l'élevage. Donc on a un groupe électrogène pour faire le courant ces jours-là. Et donc ce jour-là, le groupe s'est mis en route, mais pas la dynamo, parce que la dynamo avait été coupée manuellement. Le moteur diesel tournait, mais pas la dynamo. Donc il n'y avait pas de production d'électricité. Donc les poulets étaient arrivés
lourd, très lourd, hein, ce lot-là. C'est-à-dire que ça faisait des poulets d'un kilo 6. Et donc, c'était des beaux poulets qui avaient été détassés. On avait enlevé une partie des poulets pour que les autres aient de la place pour bien pousser. Donc, c'était un super lot. Et donc, le groupe s'est mis et donc, tout s'est coupé puisqu'il n'y avait plus d'électricité sur le site, quoi. Et donc, vers 7h15, peut-être l'alarme s'est mise en route parce qu'il y a un taux d'hygrométrie qui montait très vite dans le bâtiment puisque tout s'était fermé. Donc, tous les trappes, tout ça, qui normalement servaient pour apporter de l'air, hein. Tout s'est fermé, donc c'était une vraie cocon de minute quoi, là-dedans. Et le temps que je prenne ma voiture d'ici, donc c'était à 4 km, hein, même pas 3 km 8, et ben, je suis arrivé sur le site. Pas de courant, mais le groupe tournait, donc j'ai été un peu paniqué. J'ai appelé mon installateur qui est basé à Saint-Ivy. Il me dit, ben, regarde, t'as un disjoncteur sur la dynamo, et peut-être c'est celui-là qui est coupé. En effet, il était sur off, et donc quand je l'ai remis en route, tout de suite, ça a mis du courant sur toute l'exploitation. Les ventilos se sont mis en route pour sortir l'hygrométrie, mais pour là, c'était trop tard. Donc quand je suis arrivé, tout le monde était allongé, c'était le désert là-dedans, Enfin, c'était déjà catastrophique, quoi. Et donc, il y avait un ou deux qui levaient la tête ici, par là, et puis... voilà, quoi. Quoi faire? Donc, le veto doit venir déterminer la cause de la mort. Ou en tout cas, c'était aussi pour savoir si c'était pas un problème sanitaire, quoi. Et donc, il est venu, hein, il est venu vers les 10 heures. Il a fait une constatation de mort par étouffement. Quand il y a une certaine quantité de poulets morts sur une exploitation, il faut faire appel à une benne spéciale, enfin de l'écarissage, qui doivent informer la préfecture. Donc c'est tout un processus, parce qu'en fait, il faut aller très vite, puisque des poulets, ils partent très vite en décomposition quand c'est comme ça, parce qu'en plus ils sont collés sur la, enfin ils sont au sol, donc il y a de la chaleur du sol qui fait qu'ils fermentent très vite. Et donc, on les a sortis, puisque l'écarissage, on n'avait pas pu les avoir avant le lendemain. C'est assez difficile à voir. Et donc après, pour les assurances, il faut un bon d'écarissage pour savoir exactement la quantité de poulets exactement qui sont décédés, crevés, on va dire. Bon, après, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est tout le côté administratif, tout ce qu'il faut appeler, les personnes qu'il faut appeler, machin, ça vous évite d'y penser, mais c'est au moment où on les a ramassés, quoi. C'était... D'ailleurs, d'y penser. Comme quoi ça marque. Et donc voilà, c'est le fait de voir ça, c'est vrai que c'est du travail perdu, des animaux qui sont crevés dans des conditions bas terribles. Et puis surtout, comment c'est arrivé, qu'on n'a jamais su, hein, qui a disjoncté cette dynamo, si ce n'est quelqu'un qui connaît parfaitement le système. On n'a jamais su, il y a eu enquête de gendarmes, il y a eu relevé d'empreintes, mais comme c'était dans un endroit humide, ils n'ont pas pu trouver qui a touché.
Les animaux domestiques sont des machines. Ce sont des machines donnant des services et des produits. Les animaux mangent, ce sont des machines qui consomment, qui brûlent une certaine quantité de combustible d'une certaine nature. Ils se meuvent, ce sont des machines en mouvement, obéissant aux lois de la mécanique. Ils donnent du lait, de la viande, de la force, ce sont des machines fournissant un rendement pour une certaine dépense. Ce fonctionnement qui caractérise la vie est aussi la condition de notre exploitation zootechnique, l'occasion de dépenses et de rendements que nous devons balancer, de manière à atténuer les prix de revient pour accroître les profits. Extrait du traité de zootechnie d'André Sanson, 1907.
Il n'y a qu'un éleveur, hein, qui a eu le cran, oui, qui m'a juste dit « Mais t'inquiète pas, quand il a su que j'allais arrêter, t'inquiète pas Olivier, aujourd'hui c'est pas évident et puis voilà, c'est pas parce que tu as pas réussi là que t'arriveras pas ailleurs. » Mais il n'y a eu qu'un éleveur qui l'a dit. Alors qu'il est éleveur de volailles lui-même, donc il sait de quoi il parle. Pourtant, des gens qu'on pensait proches ne le disent pas. Et, alors après, est-ce qu'ils le pensent, est-ce qu'ils ne le pensent pas, j'en sais rien. Mais certainement que ça restera pendant un moment. Mais bon, Enfin, il faut pas rester penser à ça parce que sinon on quitte Saint-Urien, on... Enfin voilà quoi. Et donc moi ça me dérange pas. Enfin, c'est... je suis jugé forcément, mais personnellement j'avance et puis voilà.
Jean-Charles Jacopin, je suis actuellement retraité. J'ai passé ma vie comme agriculteur en tant que producteur de lait. Et j'ai passé beaucoup de temps dans le syndicalisme, avec une interruption dans les dernières années. Et lorsque je suis arrivé en retraite, le privilège des retraités, c'est d'avoir quand même beaucoup de temps. Et puis, j'avais envie de m'impliquer dans cette association que je connaissais. Donc l'association a été créée en 2005. Elle a été créée à l'initiative de la Confédération paysanne, qui, il y avait d'un côté le syndicalisme qui défend globalement les agriculteurs, essaye de proposer d'autres modèles de développement, et ils se rendaient compte qu'il y avait de plus en plus de laissés pour compte, et ils ont donc décidé collectivement de créer cette association qu'est Solidarité Paysan. Ce qui se passe souvent, c'est une conjonction de plusieurs phénomènes. Il y a d'abord souvent une crise dans la production qui n'est pas nécessairement récente. Là, pour le lait, c'est plus la crise de 2008, de 2009 qu'on ressent aujourd'hui. Mais il y a souvent un autre élément qui vient aggraver la situation. Cet autre élément, c'est un problème sanitaire sur le cheptel, c'est un problème de maladie dans le couple ou chez l'exploitant, un problème de divorce, de séparation. Et c'est ce cumul des deux qui fait que, en fait, la situation, tout d'un coup, se dégrade et se dégrade très, très vite. Et souvent, quand on intervient ou quand on nous demande d'intervenir, déjà, les dégâts sont bien avancés. On a en moyenne 25 nouveaux cas à traiter chaque année, sauf cette année, depuis le mois de septembre, sans qu'on sache vraiment pourquoi, le nombre de demandes a doublé. On croule complètement sous les nouveaux dossiers. Ce n'est pas particulièrement lié à une crise de production. Sur ces dossiers-là, pour l'instant, on arrive à 65% de cas où on réussit à maintenir l'exploitation. Et donc le reste, où les gens arrêtent, soit ils vont jusqu'à la retraite et puis ils s'arrêtent, soit ils sont obligés d'aller en règlement judiciaire et d'arrêter l'exploitation. J'ai souvent l'impression qu'on fait, nous, du replâtrage sur un système qui, dans son fonctionnement, produit de l'exclusion. Je m'explique, on a des systèmes de production et l'intérêt global, c'est de considérer que la majorité s'en sort. Et les chiffres qui sortent, on dit le revenu moyen des producteurs de lait est tant, le revenu moyen des producteurs de porc est tant. Mais dans cette moyenne-là, il y a ceux qui réussissent très bien et il y a ceux qui échouent. Et notre système provoque lui-même ces exclusions. On n'a plus droit à l'échec actuellement. Il faut être soit dans la moyenne, soit dans le peloton de tête. Et on se retrouve, nous, à essayer d'aider ces gens qui ont été laissés de côté parce qu'ils ont, à un moment donné, trébuché sur quelque chose dont ils ne sont pas responsables la plupart du temps. S'il y a un phénomène de maladie dans le troupeau, ils ne sont pas responsables. Si l'exploitant attrape un cancer ou s'il y a un problème de couple, ils ne sont pas responsables. Donc... on crée en même temps cette culpabilité chez l'agriculteur d'avoir échoué alors que justement la moyenne s'en sort.
Un bon éleveur, c'est quelqu'un qui aime ses animaux d'abord. S'il y a plein d'animaux, s'il y en a beaucoup, il ne peut plus être bon éleveur. Le nombre fait que ça, on a du mal à gérer. Ça, c'est l'heure du nombre fait que quand il y a une production qui est de taille humaine, on peut appeler ça de taille humaine, le type peut dire bon éleveur, il peut mieux gérer, mieux contrôler.
Un bon éleveur, déjà, il faut quelqu'un de sérieux. C'est sûr, on ne devient pas bon éleveur du jour au lendemain, quoi. C'est très complexe, c'est très dur. Il faut savoir quand est-ce que les poulets sont malades. Il faut tout ressentir. Des fois, il y a des choses comme ça que... Il y a des gens qui ne sont pas faits. C'est pour ça qu'il y a eu des... Certains sont déçus quand ils pensaient que ça se faisait comme ça, quoi. On met des poulets là. Bon, après, ça ne marche pas comme ça. Il faut être tous les jours, 7 sur 7, à surveiller, puis à contrôler, et puis à gérer tout ça, quoi. Pour être bon, quoi.
Ouais, pour moi, il y a des éleveurs avec des objectifs différents. Nous, on n'est pas là pour juger si un gars, c'est un bon éleveur, c'est pas un bon éleveur. Si on nous fait appel, c'est qu'il y a un problème. Et si on porte un jugement sur l'éleveur, ça veut dire qu'on culpabilise par définition celui qui aurait des difficultés. Or, s'il a des difficultés, c'est même s'il se culpabilise déjà suffisamment, et ça n'est pas de sa responsabilité. Donc, pour moi, il y a des éleveurs.
Poulet numéro 728120, poulet de Vendée, élevé en plein air 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimenté avec 75% de céréales, décembre 1998 à l'abattoir de Saint-Fulgent. Électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet.
Philippe Lemeur, je suis agriculteur bio donc depuis 1999. J'approche la cinquantaine dans quelques semaines. Et donc ça fait une dizaine d'années que je suis donc agriculteur ici sur la commune de Tours. Donc en fait là on est dans la ferme familiale. Mes parents sont malheureusement décédés. C'était un système de polyculture élevage. Et dans les années 80-90, il y a eu un grand tournant dans l'agriculture bretonne où elle s'est industrialisée. Beaucoup d'exploitations ont fait le choix de la spécialisation, soit en lait, soit en volaille ou soit en porc. Les parents en fait n'ont pas fait ce pas-là, ils sont restés donc avec leur petit système de polyculture. Ce qui fait qu'on a des bâtiments qui étaient très intéressants pour ce que je voulais faire, parce qu'ils étaient adaptables, ces bâtiments-là. Donc j'ai gardé à peu près les structures donc, d'origine. Voilà donc le bâtiment volaille qui a été conçu dans des anciennes porcheries. Alors dans ce bâtiment là on va y trouver donc les poussins, parce que je reçois pour une partie de ma production, je reçois donc des poussins de un jour. Je produis également des poussins d'espèces différentes, du coucou de renne par exemple, une espèce locale, une variété locale. Ici, il y a Cacahuète, le roi du hangar. C'est le chat, le gardien du hangar. Il ne mange pas les poussins, quelques souris. Alors, ici, vous avez donc une bande de poussins qui a une quinzaine de jours, qui est arrivée. Donc, il y a 400 à peu près dans la bande. Pour le démarrage, ils ont un aliment, ce qu'on appelle un aliment démarrage, là que j'achète hein, en agriculture biologique. De l'eau bien sûr, et puis donc un radiant pour maintenir donc une chaleur suffisante à leur croissance. Donc là ils vont y rester à peu près 4 à 5 semaines. Donc pendant 3 semaines ils vont recevoir l'aliment démarrage. Et ensuite on va passer à un deuxième aliment qu'on appelle aliment croissance, par contre qui est fabriqué sur la ferme. À partir donc de matières premières, soit cultivées sur l'exploitation ou bien achetées. Donc là, vous avez des connus, connus noirs, connus rouges, et puis quelques pintades. Quand on les reçoit, en fait, on chauffe un petit peu la poussinière avant la réception des poussins. L'ambiance est bonne lorsque vous voyez tous les poussins qui s'allongent en arc de cercle autour du radiant. Donc ils ne sont pas trop près et ils sont pas, ça veut dire qu'ils ont assez suffisamment chaud et ils ne sont pas non plus contre les parois qui montreraient qu'ils ont trop chaud.
Donc fier au comportement des animaux.
Exactement. Et puis au fur et à mesure de leur croissance, on diminue la chauffe. Et comme ça les habitue aussi petit à petit à avoir donc de moins en moins de chaleur pour pouvoir endurer les conditions un peu plus difficiles lorsqu'ils vont sortir dans les parcs. Ils sont bien sûr pas amenés à rester ici, hein. Ils vont passer 5 à 6 semaines ici avant donc d'être mis dans le parc où ils seront donc en plein air pour un élevage de 120 jours à peu près, donc 4 mois. Donc là on est lundi, donc ce soir à la nuit tombée. Parce qu'en fait, pour manipuler les volailles, il vaut mieux y aller quand il fait nuit, parce que là, elles sont beaucoup plus tranquilles, plus paisibles. Ce soir, donc, je vais mettre mes volailles en caisse pour aller à l'abattoir donc, demain matin. Donc, j'abats à peu près 80 volailles par semaine. Donc, on a une production de 5000 volailles par an, qui sont vendues donc, exclusivement en vente directe sur les marchés. Mais en collaboration avec... des collègues Véronique et Jacques qui sont producteurs de porc sur la commune d'à côté, en bio également. Ce sont deux exploitations distinctes, mais on a du matériel de vente en commun. On a une vitrine, un fourgon, une balance. On peut pas plus de 25 km à la ronde pour vendre nos produits. Et on a chacun nos marchés. Donc en fait, nos produits sont présents 5 fois par semaine sur les marchés locaux. Et nous, physiquement, on y est présent soit 2, soit 3 fois par semaine.
Et vous les vendez combien, du coup, les poulets ?
Là, le kilo de connu est vendu 10,50 euros le kilo. C'est pas facile du tout de partir comme ça. Bah tiens, j'ai envie de faire de la production fermière et puis aller vendre sur les marchés ou bien gagner ma vie comme ça. C'est pas simple non plus. Hein. C'est pas simple non plus parce que... Il faut se réapproprier l'élevage déjà, c'est une première chose. Après, il faut créer son réseau de distribution, il faut aller sur les marchés ou bien alors il faut créer des choses. Mais moi, je reste quand même très optimiste sur ce type d'agriculture parce que je pense que c'est l'offre qui crée la demande. Et il y a de plus en plus d'offres. Hein. C'est vrai que j'ai eu quelques responsabilités en tant qu'administrateur au groupement d'agriculteurs biologiques du Finistère et on a accompagné des installations, de nombreuses installations. Donc il y a beaucoup de jeunes, des jeunes motivés qui veulent s'installer et qui s'installent et qui font des très bons produits. Et puis d'un autre côté, on s'aperçoit aussi qu'il y a de la demande. Souvent on me demande mais où je pourrais trouver ci, où je peux trouver des légumes, où je peux trouver du pain, où je peux trouver de la viande. Il y a des choses à créer, mais qui est en cours hein, de constitution, mais qui va, à mon avis, se développer. C'est cette mise en adéquation entre l'offre et la demande. C'est des magasins de producteurs qui sont en train de se monter à droite à gauche. Ce sont des regroupements de producteurs sur des marchés, à la ferme, qui se font également. Parce que c'est vrai que le consommateur, il ne va pas aller à droite à gauche chercher son pain, chercher son lait, chercher son yaourt. Je pense qu'il faut aussi organiser en fait de la distribution, mais de la distribution pour laquelle on resterait maître et responsable.
Si à un moment donné tous les consommateurs voulaient du bio, et ben tous les agriculteurs se mettraient au bio. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous disais tout à l'heure, moi quand je mets un poulet en place dans mon poulailler, celui qui me l'a mis en place sait déjà à qui il va le vendre. Et celui à qui il va le vendre a 9 chances sur 10 de savoir dans quel linéaire il va être vendu. Parce que vous ne produisez pas de la même façon un poulet qui est destiné à être vendu dans tel ou tel établissement. Un poulet qui est destiné à aller sur le marché export pour les pays arabes n'aura pas la même taille, etc. etc. Donc c'est... Aujourd'hui, quand on produit, on sait déjà à qui on va vendre. Donc si tout le monde savait, si tous les abattoirs travaillaient que pour des magasins bio et des consommateurs bio, eh ben, on produirait tous du bio.
Vous voyez comment l'avenir de la filière avicole dans les 20-30 ans qui viennent, si c'est possible d'avoir une projection?
La filière avicole ou la production de volailles a un bel avenir. La consommation de viande de volaille sur la planète en 2011, c'est 100 millions de tonnes. 100 millions de tonnes qui ont été produites et consommées sur la planète. L'augmentation de cette production et cette consommation-là, c'est 3% par an. 3% par an, ça fait 3 millions de tonnes de viande de volaille. Bon, ça fait... Il y a peu de gens qui se rendent compte de ce que c'est, puisqu'on achète rarement 3 millions de tonnes de viande de volaille pour cuisiner. Mais il faut savoir que la consommation de viande de volaille en France sur une année, c'est 1 500 000 tonnes. Donc l'augmentation de la consommation et de la production de viande de volaille, c'est 2 fois la consommation de la France tous les ans. Voilà. En Europe, on consomme à peu près 25 kilos par habitant. Les Américains sont à 50 et quelques. L'Inde et la Chine sont à 1 kilo à peine. Et sachant qu'aujourd'hui, la protéine animale qui coûte le moins cher à produire et du coup qui coûte le moins cher à acheter, c'est la viande de volaille. Voilà. Donc, il y a un bel avenir. Alors après, est-ce que cette viande de volaille-là sera produite chez nous ou ailleurs? Ça, c'est la question.
Ce n'est pas notre ambition, nous, à la planète. Et c'est le discours qui est souvent, de la part de nos responsables agricoles, c'est le discours qui est récurrent en disant ben oui, il faut continuer à produire parce qu'il y a de plus en plus de bouches à nourrir. Mais en fait, on est en train de faire le contraire. On est en train de faire le contraire parce que notre système de production agricole européen est en fait responsable de beaucoup de problèmes alimentaires et de famines dans les pays du Sud. On va prendre l'exemple, par exemple, du soja qui est emblématique ici dans nos élevages de volailles, mais aussi de bovins, parce qu'avec le système maïs, il faut du soja. Ce soja, on va le chercher où? On va le chercher soit aux États-Unis ou soit au Brésil. Et le Brésil, on sait très bien de quelle manière le soja est cultivé. C'est de la déforestation, c'est l'usurpation des terres de petits paysans pour y mettre des grosses haciendas ou des grandes exploitations multinationales qui vont donc produire du soja OGM dans 100% des cas pour venir nourrir nos animaux ici. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple qui a été flagrant au moment de la crise avicole, donc Doubs pour ne pas le nommer, ou d'autres producteurs de volailles exportent de volailles congelées, inondent le marché africain de volailles congelées. Dans des conditions parfois qui sont inadmissibles. On voit des cartons qui sont en train de dégeler sur les ports. Et tout ça contre de la production locale. Les petits producteurs avicoles du Bénin, du Togo, etc. ne peuvent plus vivre de leur production parce que les poulets donc, export arrivent à des prix défiant toute concurrence pour eux. Donc à ce niveau-là, je pense que non... Nous, autres paysans bretons ou français, nous ne nourrirons jamais la planète. Je pense que chaque pays a ses ressources alimentaires. Au contraire, il faut lutter pour la souveraineté alimentaire dans chaque pays et revenir à une agriculture de paysans, une agriculture familiale dans chaque pays.
Ça fait combien de temps que vous avez ces poules là?
Bah là c'est les poules pondeuses qu'il y a là. Donc ils sont nés dans la couveuse ici principalement le mois d'août de l'année dernière.
Bah ça fait des œufs pour la consommation personnelle et voilà quoi. Et puis je m'amuse comme ça dans ma couveuse à avoir mes propres poussins pour montrer aux enfants que. Voilà, ils sont contents aussi.
Les trop petits, en fait, les techniciens et les vétos hein, vous poussent à les tuer avant 10 jours, quoi. Puisque ils sont trop petits, donc ils vont rester trop petits tout le long du lot. Donc ils vont vous baisser votre moyenne à la sortie. Et du coup, ils vont vous faire perdre de l'argent. Donc il faut s'efforcer de tuer les trop petits. Donc oui, c'est constamment... C'est vrai que le côté éleveur, là, il n'est pas très... C'est pour ça que moi, je restais souvent à des petits poulets à la fin, mais que je gardais pour élever
derrière parce qu'ils vivaient très bien, ils étaient juste plus petits. Mais seulement à l'abattoir, ils étaient saisis parce qu'ils sortaient du calibre. Moi, j'essayais de les trier même en avance, mais de les mettre de côté. Et puis, je les élevais une fois que les autres étaient partis à l'abattoir. Eux, ils restaient un mois et demi en plus. Et puis, ils étaient bons pour la consommation personnelle, quoi. Économiquement, sûrement, c'était pas bon, mais ça, j'avais du mal à faire. Hein. Tuer les petits. Allez.
Alors, il y a principalement de la Success, la blanche, et de la Marande en noir.
Je pense que je pourrais en vivre. C'est-à-dire que, avec la demande qu'il y a, par exemple, je vais en dire, j'en tue 10 derrière. Il y a déjà 10 qui sont commandés pour la fois d'après. Enfin, voilà, on sent qu'il y a une demande là-dessus. C'est vrai que ce n'est pas du tout pareil. Hein. Ils sont élevés... En général, je les envoie à 2,5 kg. Donc, un poulet de 2,5 kg, ça fait un bon repas. Mais, et puis voilà, je les vends à 5,50 euros le kilo. Donc, voilà, donc, les gens sont contents avec ça. C'est un poulet qui a quand même allé entre... 2 mois et demi, quoi, à peu près, quoi. Donc, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, évidemment, c'est du poulet qui sort, qui va manger de l'herbe, qui mange du blé, qui mange les moustiques, qui mange les petits cailloux. Moi, j'ai jamais mangé du poulet industriel, malgré que j'en ai produit beaucoup. J'ai toujours mangé cela, mais les gens me disent, enfin voilà, tu pourras les vendre à je sais pas combien, on les achèterait encore parce que voilà, il y a à manger dessus en plus, et puis c'est très bon.
Et là, pour l'instant, je pense qu'on ne fait pas assez de place à ce type d'agriculture familiale. Et si on ne fait pas assez de place maintenant, d'ici 10-15 ans, ça va être très, très compliqué. Parce qu'avec le mouvement actuel d'agrandissement important d'exploitation, il faut savoir que 50% des éleveurs vont prendre leur retraite d'ici 5 à 10 ans. Ça veut dire que plus de la moitié des exploitations vont encore disparaître. Alors, à partir de là, quel modèle veut-on? Est-ce qu'on veut que toutes ces exploitations qui vont disparaître arrivent à la main de quelques gros agriculteurs, il y en aura un ou deux par commune? Ou bien veut-on maintenir un tissu rural? Veut-on maintenir du monde dans les campagnes? Veut-on qu'il continue à avoir des exploitations donc, économiquement viables sur le territoire? Donc ça, c'est un enjeu très important. Il y a un dicton qui dit un paysan, c'est pas des hectares qu'il a besoin, c'est des voisins.
Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52 francs 55 chez le boucher chauve rue de la Bastille. Je l'ai mangé chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré, le poulet. Mon poulet. Numéro 728120. Je t'aime. Je pense à toi.
C'était Requiem pour 25 000 poulets. Merci à René Du, aux techniciens de MVO, à Didier Goubil, Roland Duflette, Olivier Guéguin, Jean-Charles Jacopin et Philippe Lemeur. Coordination technique Eve Etienne et Christine Bernard. Productrice coordinatrice Irène Omelianenko, prise de son Frédéric Cailleroo, mixage Olivier Dupré, un documentaire de Véronique Villa et Romain Caïla pour Sur les Docs.
Merci pour votre écoute prolongeable via le podcast qui est accessible gratuitement sur le site de l'heure du documentaire. Demain, c'est Charles Penquin qui à 17h nous proposera son Causer la France. Vous écoutez France Culture.